Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Lycée, la radio 100% lycéen, en direct du lycée Alain Fournier de Bourges. Aujourd'hui, l'émission tant attendue, Paris, les années folles, avec au micro Léonard.
Bonjour.
Et moi-même, Amy, pour vous faire voyager à travers de merveilleuses années, les années folles. Années marquées par la fête, l'élégance et une révolution artistique et culturelle. Les années folles désignent les années 1920 en France. Elles furent une période d'intense activité sociale, culturelle et artistique. Elle se termine aux alentours de 1929, date du crash boursier américain.
Je vais vous présenter La Ruche. La Ruche est un lieu emblématique de la scène artistique parisienne des années folles, situé dans le 15e arrondissement de Paris. Créée en 1902 par le sculpteur Alfred Boucher, elle est née du recyclage d'un pavillon d'exposition universelle de 1900. Son nom, La Ruche, fait référence à l'idée d'un espace où les artistes, comme les abeilles, travaillent ensemble dans une effervescence créative.
Merci Léonard, tu nous donnes envie de manger du miel. Nous allons maintenant écouter Laura et Inès pour leur présentation de l'artiste Brancusi, artiste connu pour son œuvre Le Baiser.
Bonjour, Constantin Brancusi est né en 1876 en Roumanie et est mort en 1957 à Paris. Il est l'une des figures majeures de la sculpture moderne. Installé à Paris, il devient l'assistant de Rodin en 1907 et révolutionne l'art en abandonnant les formes traditionnelles pour se diriger vers l'abstraction et la simplicité des lignes.
Premièrement, loin des représentations réalistes, Brancusi cherche à capturer l'essence des formes humaines et naturelles en épurant ses sculptures à l'extrême. On le perçoit dans l'une de ses œuvres les plus célèbres, qui se nomme Le Baiser, appartenant à une série et qui illustre parfaitement cette démarche. Dans cette sculpture, Brancusi représente l'amour à travers deux corps fusionnés en une forme continue et abstraite. Les figures s'entrelacent de façon fluide, sans distinction marquée entre l'un et l'autre, ce qui renforce l'idée d'un amour pur et universel. L'artiste utilise la simplicité des lignes et des volumes pour exprimer l'intimité et l'harmonie de l'union amoureuse au-delà de la simple représentation physique.
De plus, il utilise des matériaux comme le marbre, le bronze ou le bois et s'inspire des traditions populaires de son pays natal tout en se tournant vers une quête universelle de la beauté intemporelle. Issu d'une famille de paysans, lui-même devenu berger, il restera toujours en contact continuel avec la nature. Dans l'œuvre emblématique « La Muse endormie » de 1910, qui représente une statue en forme d'œuf où émerge l'idée de la naissance et de la vie qui incarne la tranquillité. Ici, Brancusi réduit la figure féminine à une forme presque sphérique, un visage reposant sur un socle lisse suggérant une forme de sérénité absolue. Plus qu'un simple portrait, la sculpture invite à réfléchir à l'état intérieur de la muse, une sorte de silence spirituel suspendu dans le temps. À travers cette œuvre, l'artiste cherche à capter l'essence de l'émotion, bien au-delà des formes humaines.
En résumé, Brancusi, via ses œuvres telles que Le Baiser et la Muse endormie, nous offre des sculptures qui vont au-delà de la simple représentation physique, pour toucher à des idées profondes et universelles, telles que l'amour, la paix intérieure et la beauté pure.
Eh ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci Laura, merci Inès. C'était Breath, nous allons écouter Breath par Feder.
As I dance along, I raise the light.
C'était Breath par Feder sur le Radio Lycée 100% Lycéen.
Nous allons à présent écouter Yelena et Capucine pour leur présentation de Fernand Léger.
Ah, mais c'est l'artiste des tubes, non ?
Oui, exactement, et elles vont nous le confirmer. Bonjour les filles.
Bonjour.
Bonjour.
Fernand Léger est un peintre et sculpteur français normand, né le 4 février 1881 et mort le 17 août 1955. Il faisait partie du mouvement du cubisme. De plus, durant sa période de formation, il intègre l'Académie Julien, puis l'École nationale supérieure des arts décoratifs, où il débute dans l'architecture avant de se tourner vers la peinture. Il est influencé par le cubisme, un mouvement pictural qui se développe à partir de 1907, date de création des Demoiselles d'Avignon de Picasso. Ce courant a pour objectif de déconstruire les formes et les décomposer en facettes ou en petits cubes, d'où le nom du cubisme. Il crée son style unique, le cubisme tubiste, qui se caractérise par des formes géométriques, plus spécialement des tubes et des couleurs vives cernées de noir. Il est très intéressé par la thématique de la ville et de l'industrie, mais aussi du cirque, et réalise de nombreux décors de cinéma. Fernand Léger est aussi un artiste engagé, notamment dans un art social. Pour lui, le beau est partout, disait-il. En 1914, Fernand Léger est mobilisé pour aller à la guerre, d'abord comme sapeur, puis comme brancardier et reste simple soldat jusqu'en 1917, date à laquelle il se fera hospitaliser. En 1930, il rencontre Charlotte Perriand, avec qui il travaillera beaucoup, mais il finira par fuir à New York à cause du nazisme.
Ainsi, on va vous présenter les manufacturiers de Fernand Léger. C'est une huile sur toile de 1950, mesurant 3 mètres par 2,28 mètres. Il est exposé au Musée national Fernand Léger à Paris. Cette œuvre représente une scène industrielle avec des ouvriers. On y retrouve aussi des chaînes, des échelles, des poutres en acier, des nuages et des échafaudages, mais aussi 6 hommes, dont 4 sur une surface plate, une sur une échelle et le dernier sur une poutre en acier. On y retrouve les couleurs primaires. Les formes sont cernées de noir et font référence au tube. Aussi, cette toile se rapproche du cubisme tubiste, car on y retrouve les formes géométriques, les couleurs vives cernées de noir et une esthétique industrielle chère à Fernand Léger.
Merci beaucoup les filles, on espère que ça vous a donné envie d'aller au musée. Nous allons maintenant écouter La Bohème par Charles Aznavour.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon âme en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons
café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
c'est La Bohème de Charles Aznavour sur Radio Lycée, la radio 100% lycéen. Vous êtes toujours avec les élèves de spécialité Histoire des Arts. Nous allons maintenant écouter Lucie et Chloé pour la présentation de Marc Chagall. Mais dis-moi, Amy, tu connais Marc Chagall ?
Mais oui, c'est l'artiste qui a peint le toit, le plafond de l'Opéra Garnier.
Ouais, pas convaincu. On va voir avec Lucie et Chloé.
Bonjour. Nous allons donc vous parler de Marc Chagall, qui est un peintre et graveur biélorusse, né le 7 juillet 1887 à Liosna, et mort le 28 mars 1985 à Saint-Paul-de-Vence. En 1906, il entame sa première formation artistique au sein de l'école d'art de Vitebsk. Après un premier refus à l'école des arts et métiers du baron Stieglitz, Marc Chagall s'inscrit à l'école de dessin de Saint-Pétersbourg, dirigée à cette époque par le peintre et philosophe Nicolas Rurich. En septembre 1909, il va entrer dans la prestigieuse école d'art de Svanseba. Chagall va partir pour Paris en 1911. Il va alors passer de nombreuses journées au musée du Louvre, où il étudie plusieurs peintres, comme Courbet et Delacroix.
Chagall va exposer ses œuvres pour la première fois en 1914 au Salon des Indépendants à Paris. Dans un même temps, il va se rendre à Berlin, où il expose dans la galerie d'Esme avec d'autres artistes. Puis, Marc Chagall va également faire une exposition personnelle qui va alors faire succès. Ses œuvres présentent des caractéristiques du surréalisme et du néo-primitivisme. Inspirées par la tradition juive, elles élaborent leur propre symbolique autour de la vie intime de Chagall, son imaginaire marqué par le paradis naïf de l'enfance. Les techniques de Marc Chagall vont se diversifier. Il va réaliser des vitraux dès 1959 pour la cathédrale Saint-Étienne de Metz.
En 1962, André Malraux, Premier ministre, confie à Marc Chagall la réalisation d'une fresque monumentale pour orner le plafond de l'Opéra Garnier de Paris. Inaugurée en 1964, cette fresque réinvente l'espace classique de cette salle parisienne. Cette composition circulaire de 220 mètres carrés est divisée en 5 sections colorées, célébrant l'histoire de l'opéra et du ballet tout en rendant hommage à des compositeurs emblématiques. Au centre de l'œuvre se trouve un médaillon doré. Tout autour, Chagall mêle des éléments architecturaux qui semblent flotter dans un mouvement perpétuel. Tout d'abord, on peut voir des silhouettes drapées de couleurs et tendant les bras. Il y a également des animaux représentés, comme des chevaux ailés ou des oiseaux majestueux. On peut y voir aussi des instruments de musique, tels que des violons, des harpes et des flûtes. Ensuite, il y a des colonnes et des dorures entourées de couleurs. Les couleurs autour du médaillon sont disposées dans toutes les directions, notamment le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Chagall insère également des scènes miniatures, comme un duo amoureux, une danseuse, une femme tenant une lampe.
Avec son style imaginaire, Marc Chagall invite le spectateur à une réflexion poétique sur l'art de relier les mondes visibles et invisibles. En superposant des scènes, des personnages et des symboles, Chagall crée une vision universelle. Les couleurs éclatantes et la composition circulaire reflètent la richesse émotionnelle et la dynamique de la musique. Il rompt alors avec le classicisme de l'architecture de l'opéra Garnier à travers son style moderne. Cette tension entre tradition et innovation peut évoquer un dialogue entre l'art du passé et celui du présent. Le choix des couleurs vives traduit également la passion, la joie et la mélancolie. À travers les figures humaines, Marc Chagall place l'amour et l'humanité au cœur de son œuvre. Pour finir, l'artiste dépasse la simple fonction esthétique pour offrir une expérience immersive et contemplative.
Ah, bah c'est mieux, c'est plus clair. Merci Lucie, merci Chloé, nous allons maintenant écouter The Look par Métronomie.
Thank you.
C'était The Look de Métronomie. Nous allons à présent écouter Cali et Thomas pour la présentation de Giacometti.
C'est pas celui qui fait les bonhommes tout fins ?
Oui, je crois que c'est ça, mais on va les laisser nous le présenter.
Alberto Giacometti est un sculpteur, peintre et graphiste suisse, né en 1901 et mort en 1966. Un sculpteur emblématique du XXe siècle, il a été influencé par le cubisme et le surréalisme. Les questions philosophiques sur la condition humaine feront partie intégrante de sa réflexion. En 1935, il abandonne son travail surréaliste pour se consacrer aux compositions avec personnages, dont l'homme qui marche. Cette sculpture extrêmement longue et élancée montre la fragilité humaine et l'isolement des humains dans un monde toujours plus complexe.
L'homme qui marche est une célèbre sculpture d'Alberto Giacometti, réalisée en 1961. Elle est l'une des œuvres les plus emblématiques du XXe siècle, représentant un homme en mouvement. La sculpture représente un homme allongé, maigre et filiforme, marchant avec une posture inclinée en avant. Il s'agit d'un modelage coulé en bronze. Elle met en avant la texture rugueuse et brute qui caractérise le travail de Giacometti. L'œuvre est disproportionnée, avec des membres étirés et un corps longiligne. L'homme qui marche incarne la fragilité, l'isolement et la solitude de l'être humain dans le monde moderne. Il est un symbole de l'effort perpétuel pour avancer malgré les difficultés. Bien que figé dans le bronze, la posture de l'homme évoque le mouvement, symbolisant la progression. L'homme n'a pas de détails individuels, ce qui en fait une représentation universelle de l'humanité à laquelle tout le monde peut se référer. La texture brute de la sculpture donne une impression de fragilité et de vulnérabilité. Les lignes simples et l'absence de détails montrent l'essentiel de l'homme sans ornement. L'homme qui marche est une métaphore de la vie humaine, un chemin incertain, parfois difficile, mais toujours en mouvement. Par sa simplicité et son universalité, il touche une corde sensible chez tous ceux qui la contemplent. C'est un chef-d'œuvre artistique qui permet une réflexion profonde sur la condition humaine.
Merci Cali et Thomas, on en a appris plus sur l'artiste. Nous allons à présent écouter Parole Parole de Dalida et Alain Delon.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours.
Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se font aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais. Tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. J'ai envie d'un peu de silence.
bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu t'aimes.
C'était Parole Parole de Dalida et Alain Delon, toujours sur Radio Lycée, la radio 100% lycéen. On espère que le choix des artistes et des musiques vous aura plu et que vous en aurez appris plus sur les années folles.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Paris, les années folles. Un grand merci à Laura et Inès, Yelena et Capucine, Perle et Pauline, Lucie et Chloé, Khalid et Thomas et enfin Madame Borda. À bientôt.
Yeah. Yeah.
Paris, Paris, Paris.